Vous écoutez France Inter, vous avez bien raison, il est 19h. Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. L'hommage d'Avignon au policier Éric Masson dans une ambiance recueillie. Des milliers d'Avignonnais et de policiers ont rendu hommage au brigadier tué mercredi dernier. Nous serons à Avignon dans un instant. Des milliers de personnes en France mobilisées pour le climat. Les manifestants demandent au gouvernement plus d'ambition écologique au moment où la promesse d'un référendum paraît incertaine. L'Europe en a assez avec AstraZeneca. Thierry Breton, commissaire européen à la mi-journée dans Questions politiques, annonce que le contrat avec le vaccin AstraZeneca n'a pas été renouvelé.
Effectivement, on n'a pas renouvelé la commande après le mois de juin. On verra. On regarde ce qui se passe. C'est un vaccin qui est très intéressant. Il a été découvert par des chercheurs de Oxford.
Quand on ne renouvelle pas une commande, c'est qu'on n'en est pas satisfait.
C'est pas encore fait. On a commencé, on en aura d'autres.
Dans ce journal également, l'Afghanistan qui enterre aujourd'hui des dizaines de jeunes filles mortes hier dans l'attentat à Kaboul. Et nous irons aussi au Creusot où la Mitterrandie s'est retrouvée à l'occasion des 40 ans du 10 mai 81. Vos rendez-vous du 19h. La page sport avec du football. Rennes-PSG ce soir en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Du cyclisme avec le Giro, le Tour d'Italie. Et puis on s'intéressera à un sport très spectaculaire. Parcours, un sport d'acrobaties urbaines. Notre coup d'œil sur l'agenda avec les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. Et puis, comme tous les dimanches soirs, nous avons rendez-vous avec Sandrine Houdin. C'est mon actu. Focus ce soir sur les élections régionales et départementales. Les Français sont perdus. La météo, cette nuit et pour demain, attention aux orages et au vent. 18 départements en vigilance orange. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Je m'appelle Dorian Chignon et voici ma question. Pourquoi dans l'Antiquité, ils ont des prénoms bizarres comme Prométhée ou Icare ?
Les petits bateaux, Noël Bréham, après ce journal.
France Inter.
Une foule émue rassemblée cet après-midi devant le commissariat d'Avignon. Une foule de policiers, de citoyens pour rendre hommage à Éric Masson, le policier tué mercredi dernier lors d'une opération anti-drogue. À de nombreuses reprises, la Marseillaise a été entonnée et de longs applaudissements ont été observés. Hommage et émotion, reportage à Avignon d'Élise Vandeville de France Bleu Vaucluse.
Dans la foule, de nombreux policiers portent leurs brassards orange, se serrent dans les bras, les yeux rouges. Jean-François, un policier venu de Montpellier, dépose deux sucettes au milieu des fleurs sur le parvis du commissariat.
J'ai deux enfants comme lui qui ont le même âge que lui. Voilà. Je pense à ses enfants.
À côté, Marie-Yvonne, son fils, lui, est policier en région parisienne.
Voilà, nous tenions à être là. On espère que malheureusement ce soit le dernier, mais bon.
C'est dans un silence poignant qu'une vingtaine de policiers sortent de l'enceinte du commissariat, un portrait d'Éric Masson dans les bras. S'ensuit une prise de parole de Philippe Quintard, le vice-président de l'amicale Police Vaucluse.
L'individu qui a fait ça à Éric n'est toujours pas interpellé, mais qu'il tremble. L'échéance n'est que retardée.
Philippe Quintard, très ému de voir autant de monde.
Les gens nous soutiennent et ils l'expriment pas forcément tous les jours et c'est normal. Mais aujourd'hui, on a vu qu'ils étaient là.
C'était une cérémonie très digne, très sobre, à l'image d'Éric, témoigne une autre policière qui, comme beaucoup de ses collègues, souhaitait éviter à tout prix toute récupération politique.
Le meurtrier du policier est toujours recherché. Une traque qui mobilise 80 policiers jour et nuit. Par ailleurs, Jean Castex, le Premier ministre, présidera après-demain mardi à Avignon une cérémonie d'hommage national à Éric Masson en présence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu cet après-midi au commissariat de Cergy dans le Val d'Oise où deux policiers avaient été attaqués et gravement blessés en octobre dernier. Des scènes de violences urbaines qui se répètent. La nuit dernière à Fréjus, dans le Var, 4 policiers ont été blessés lors d'affrontements avec des groupes de plusieurs dizaines de personnes. Aux Ulysses, en Essonne, la nuit dernière également, le commissariat a été attaqué au mortier et à coups de barre de fer. Gérald Darmanin et Jean Castex recevront demain à Matignon les syndicats de policiers. Et cet après-midi à Cergy, le ministre de l'Intérieur a assuré les forces de l'ordre de son soutien, notamment dans la lutte contre les trafiquants de drogue.
Cette lutte contre les stupéfiants, elle est essentielle pour sauver le plus d'enfants de la République de cette merde qu'est la drogue. Alors oui, les policiers et les gendarmes vont continuer à harceler ces points de deal. Ils ont des résultats extrêmement impressionnants. Ils dérangent les trafics. L'enquête nous dira si ce travail très important de harcèlement de points de deal est la cause de l'assassinat ignoble de ce véritable héros que j'ai eu l'occasion de dire d'Avignon. Mais évidemment, les trafiquants ne vont pas gagner. Et évidemment que nous devons protéger nos policiers et les policiers doivent nous protéger.
Gérald Darmanin avec Farida Noir. La rue mobilisée pour le climat. Plusieurs marches ont eu lieu aujourd'hui en France pour protester contre le projet de loi climat voté à l'Assemblée et pour réclamer une plus grande ambition écologique. À Paris, des milliers de personnes, souvent en famille, ont défilé derrière une banderole. Loi climat, échec du quinquennat. Reportage Mathilde Vinceneux.
Au rythme des fanfares, il y a des militants et beaucoup de familles qui défilent avec leurs enfants.
Je m'appelle Auguste, j'ai 10 ans. Je suis venue pour défendre notre planète, pour la sauver, parce que Macron, il ne fait pas assez de choses pour notre planète.
À côté de lui, sa maman Morgane, elle porte sur ses épaules son autre fils, Renan. À 5 ans, il brandit déjà une pancarte.
Renan, tu veux montrer ? C'est écrit « En 2050, j'aurai 35 ans, mais zéro planète. » Alors moi, je suis sa maman et je suis assez inquiète pour lui. Cette loi climat, en fait, on en attendait beaucoup. Il en reste rien.
Même colère pour le père de famille.
Toute l'ambition a disparu et on voit que les lobbies, en fait, prennent une place très importante et détricotent les choses qui venaient directement des citoyens et sur lesquels le gouvernement s'était engagé.
Beaucoup de manifestants prennent l'exemple des lignes aériennes intérieures. 3 liaisons devraient être supprimées, mais la Convention citoyenne pour le climat en demandait beaucoup plus parce qu'il y a urgence à réduire le réchauffement climatique, insiste Camille, 23 ans, avec son bonhomme de neige dessiné sur un carton.
Voilà, c'est The Snow Must Go On, parce que moi, voilà, je viens des Alpes et la neige, on voit que chaque année, elle recule, donc pour montrer que... Il y a vraiment un problème qu'on voit même à notre échelle.
Dépitée, la jeune femme promet pourtant de continuer à se battre encore et encore pour le climat.
Des marches pour le climat au moment où des doutes sont apparus sur la tenue d'un référendum pour inscrire la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution. Dans une interview au Journal du Dimanche, Pierre-Alexandre Anglade, député de La République En Marche et rapporteur du projet de loi, explique que la droite majoritaire au Sénat bloque le projet et la tenue de ce référendum. Emmanuel Macron, aujourd'hui à Strasbourg, à l'occasion de la Journée de l'Europe, a affirmé que le projet de référendum sur le climat n'est pas enterré. Simon Le Baron à Strasbourg.
Quand on lui pose la question « Maintenez-vous votre engagement d'organiser ce référendum avant la fin du quinquennat ?» La réponse fuse du tac au tac.
Oui, ce dont je suis le garant, c'est en tout cas, et ça je peux vous le dire très clairement, il n'y aura pas d'abandon, ce texte va vivre sa vie parlementaire qui seule permet d'aller au référendum si les sénateurs et les députés s'accordent.
Sauf que l'on est très loin d'un accord. La France garantit la préservation de l'environnement. C'est ce que dit le texte proposé par les citoyens de la Convention climat. Or, pour les sénateurs de droite, ce terme « garantir » est une ligne rouge. Ils le jugent beaucoup trop contraignant. On voit mal alors comment ils pourraient s'entendre avec les députés. En l'état, il ne pourra pas y avoir de référendum, assure d'ailleurs Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est en fait que le sort de cette consultation populaire qu'il a lui-même promise n'est plus entre ses mains.
Je ne peux soumettre un texte que s'il fait l'objet d'un accord entre les sénateurs et les députés. Moi, j'ai proposé un texte. Ça a été mon initiative. Ensuite, le président de la République n'a pas à intervenir dans le travail des parlementaires.
Dit autrement, si le référendum n'a pas lieu, ce ne sera pas sa responsabilité, mais celle du Sénat, qui examinera donc ce texte demain et à qui le président n'a pas manqué de renvoyer la balle.
C'est le vaccin qui fait figure d'épouvantail dans plusieurs pays d'Europe et en France, dans la campagne de vaccination contre le coronavirus. Thierry Breton, commissaire européen, a annoncé à la mi-journée dans Questions politiques sur France Inter que la Commission européenne n'a pas renouvelé pour le moment sa commande de vaccin AstraZeneca. En revanche, hier, l'Europe a annoncé un énorme contrat avec le laboratoire Pfizer, une commande d'1,8 milliard de doses de vaccins, un contrat qui pourrait coûter plus cher que prévu. Pfizer prévoit d'augmenter ses prix. En tout cas, pour ce qui concerne AstraZeneca, c'est sans doute l'épilogue d'un feuilleton à rebondissement. En direct de Bruxelles, on retrouve Pierre Benazé. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Frédéric.
Et alors, entre bisbille avec le Royaume-Uni, soupçon sur l'innocuité de ce vaccin et retard de livraison, l'Europe semble dire stop à ce vaccin.
Oui, effectivement, et vous l'avez entendu sur France Inter, Thierry Breton estime que le vaccin AstraZeneca est très intéressant, très bon. Pour l'instant, l'UE semble donc encore hésiter, si on en croit le commissaire européen au marché intérieur. La Commission n'a en tout cas pas renouvelé le contrat avec le laboratoire anglo-suédois après le mois de juin, même si le commissaire laisse planer l'hypothèse d'un nouvel accord pour les vaccins de deuxième génération. Au total, la précommande européenne pour le vaccin AstraZeneca, c'est 300 millions de doses plus 100 millions de doses potentielles. Si le contrat avec l'UE n'est pas renouvelé, les Européens attendront tout de même la livraison des doses en retard. Le laboratoire avait commencé à annoncer des retards avant même la validation de son vaccin par l'Agence européenne du médicament, le 29 janvier. AstraZeneca prévoit ne pouvoir livrer d'ici fin juin qu'un tiers des doses de vaccins commandées. Une procédure en justice a d'ailleurs été lancée à ce sujet par la Commission. Et ce n'était là que le dernier rebondissement des déboires de ce vaccin après les accusations de thrombose qui avaient provoqué en mars de multiples suspensions de la vaccination. Le Danemark n'utilise d'ailleurs plus de vaccins et de nombreux pays en restreignent l'usage aux plus de 55 ou 60 ans.
Pierre Benazé, en direct de Bruxelles, merci. En bref, en politique, Michel Barnier propose un moratoire sur l'immigration. L'ancien négociateur pour le Brexit, cité comme possible candidat à la présidentielle de 2022, a donc suggéré un moratoire de 3 à 5 ans. Une proposition également avancée par Marine Le Pen.
France Inter. Frédéric Barrère.
L'Afghanistan endeuillé après le terrible attentat hier contre une école à Kaboul. Des dizaines de jeunes filles ont été enterrées aujourd'hui. Une série d'explosions s'est produite alors qu'elles étaient en classe. L'attentat attribué aux talibans a tué plus de 50 personnes, dont beaucoup de lycéennes, et fait des dizaines de blessés. Toute la journée, des funérailles ont eu lieu sur une colline à l'ouest de Kaboul. Reportage Sonia Ghazali.
Des jeunes hommes se relaient pour creuser les tombes, côte à côte, au milieu d'une foule aux yeux rougis. Habib enterre sa sœur, Kamal, âgée de 17 ans. Elle était la première de sa classe, explique-t-il.
Elle était très modeste. Elle était très intelligente. Elle s'enfermait dans sa chambre pour étudier et ne laissait personne la déranger. Elle pensait qu'un bel avenir l'attendait.
Dans la foule, il y a Mohamed Nabi. Sa maison jouxte l'école Sayed El Chouada. Il a assisté à toute la scène.
L'explosion était très forte. Quand je suis sorti, c'était horrible. J'ai vu des corps au milieu des cahiers, des livres, des stylos.
Ses deux fils, qui sont scolarisés dans cette même école, sont sains et saufs.
Je continuerai d'envoyer mes enfants dans cette école, parce que de toute façon, il n'y a aucune école qui a une bonne sécurité là où nous vivons. Avant l'explosion, on a vu des gens au comportement étrange et on a prévenu la police. Mais elle n'a rien fait.
Les habitants de Dasht-e-Barchi ont du mal à contenir leur colère contre les autorités afghanes, qu'ils jugent incapables de les protéger. Sonia Ghazali, Kaboul, RFI pour France Inter.
En France, un rendez-vous important pour la Mitterrandie. 40 ans après le 10 mai 81 et la victoire de François Mitterrand, les compagnons de route de l'ancien président se sont donné rendez-vous aujourd'hui au Creusot, en Saône-et-Loire, pour célébrer ce 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand et pour espérer un retour de la gauche au pouvoir au moment où seul un électeur sur quatre envisage de voter pour elle en 2022. Laurence Perron.
L'histoire dira s'il valait mieux aujourd'hui manifester pour le climat ou faire le voyage du Creusot. Anne Hidalgo a choisi l'hommage au premier président socialiste et fait mine de poser un jalon pour 2022.
Les valeurs républicaines aussi portées par François Mitterrand font partie de cet héritage dans lequel nous nous inscrivons. Et puis à nous d'inventer la suite.
Aux côtés de Gilbert Mitterrand, le compagnon de route historique et ancien ministre Pierre Joxe fait passer quelques messages.
Qui plante à gauche, qui arrose, qui fait progresser. Je dirais pas sur mon regard, ça pourrait être mal pris.
Lionel Jospin, auquel François Mitterrand avait confié les clés du Parti Socialiste, embraye.
Aujourd'hui, on le sait, le Parti Socialiste est plus faible. Mais pourquoi ne pas espérer qu'il retrouve dans un futur que je ne saurais dater le chemin de la Renaissance ?
L'actuel patron du PS, Olivier Faure, suspect de vouloir brader la candidature de 2022 en s'alliant aux Verts, n'était pas véritablement souhaité ici. À distance, François Hollande lui fait la leçon.
C'était pas facile pour François Mitterrand. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais ? J'attends, je cherche une union impossible. Elle avait été broyée par le Parti communiste. Non, je prends le chemin. Et au bout du chemin, il y avait la victoire.
L'ancien président est interpellé par des militants de 1981 qui lui demandent de se représenter. Il fait celui qui n'a rien entendu.
Laurence Perron, au Creusot. (rire) 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Frédéric.
Le feuilleton de la Ligue 1 en football qui nous promet un épilogue toujours aussi indécis. Les derniers épisodes promettent beaucoup.
Avec un ultime match ce soir pour conclure la 36e journée et une question pour clore ce week-end. Le PSG peut-il tout perdre en quelques jours? Éliminé mardi en Ligue des Champions à Manchester, les Parisiens sont à Rennes. Ce soir, la capitale bretonne, nous vous trouvez Alexandre Vaud. Bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Le PSG à 4 points du leader Lille, ce qui veut dire Alexandre qu'une défaite ce soir et le règne parisien sur le championnat pourrait bien prendre fin.
Oui, il faut absolument gagner pour revenir à un point du leader lillois, effectivement, pour espérer encore entretenir cet espoir d'être champion cette saison. Sinon, il ne restera qu'une entre guillemets, demi-finale de Coupe de France mercredi à Montpellier. Des années, des saisons qu'on n'a pas vécu ça dans le club de la capitale. Pareil qu'il devra faire en plus ce soir sans Mbappé suspendu, sans Verratti blessé, mais avec Neymar qui a le prolongé, vous le savez. Comment ne pas l'avoir vu son contrat hier jusqu'en 2025. Attention tout de même à Reims, 7e qui peut toujours viser une 5e place synonyme de Coupe d'Europe la saison prochaine en cas de victoire ce soir après les défaites de Lens et Marseille en début d'après-midi. L'équipe bretonne 10e il y a encore 2 mois qui retrouve des couleurs avec l'arrivée de l'ancien entraîneur lyonnais Bruno Genesio, mais qui devra faire ce soir sans son milieu de terrain, le champion du monde Steven Nzonzi et la pépite Eduardo Camavinga, tous deux suspendus.
Alors le PSG sous pression forcément, mais à Paris, eh bien on y est habitué, semblait dire il y a quelques heures l'entraîneur Mauricio Pochettino.
La déception de ne pas être en finale de la Ligue des Champions a été très forte, mais elle a été vite digérée. On a de grands joueurs qui savent qu'il faut passer à autre chose et qui vont arriver à le faire émotionnellement et très vite. On a devant nous 3 matchs très importants que l'on doit gagner. Ça dépend de nous finalement de mettre la pression sur les Lillois. Et après, si on gagne ces matchs, on espérera un faux pas de Lille.
Un dernier mot avec vous Alexandre sur le PSG, puisqu'on a appris, vous l'avez rappelé, la prolongation du contrat de Neymar jusqu'en 2025. Le prochain chantier des dirigeants maintenant, eh bien, c'est de convaincre Kylian Mbappé de rester au club.
Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué que le Brésilien. Les deux joueurs sont arrivés ensemble hein, au PSG, on le rappelle, à l'été 2017. Ils avaient signé tous les deux jusqu'en 2022. Mais c'est vrai que Mbappé, lui, se fait toujours désirer. Le crack de Bondy est heureux à Paris. Mais plus jeune, 22 ans, avec des envies d'ailleurs. Et puis, au-delà du salaire mirobolant proposé par le club parisien et des futures sanctions qui pourraient toucher d'autres clubs concurrents qui voudraient enrôler Mbappé, sanctions qui pourraient intervenir puisque ces clubs ont notamment soutenu le projet de Super League. Eh bien, le meilleur buteur de la Ligue 1, lui, veut surtout des garanties sportives dans le club où il sera pour gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. La prolongation de Neymar en est une, Jérôme. Le PSG a d'ailleurs demandé désormais à Kylian Mbappé de se prononcer, mais pour l'instant, c'est toujours silence radio du côté du clan Mbappé.
Et derrière Lille et le PSG, Jérôme, la lutte, c'est intéressante. Monaco lutte pour rester sur le podium. Et grâce à son succès 1-0 à Reims, c'est bien les Monégasques reprennent leur 3e place avec 1 point d'avance sur Lyon et 1 de retard sur le PSG justement. Il y a eu beaucoup de buts ce dimanche dans cette 36e journée. En bas du classement, victoire importante de Nîmes, 3-0 à Metz. Les Crocos toujours à la lutte, eux, pour ne pas descendre. Même score pour Angers contre Dijon. Montpellier s'impose à Strasbourg 3-2 et Marseille perd gros dans la course à l'Europe après son revers à Saint-Etienne 1-0. Puis on parlait de Ligue des Champions tout à l'heure, finale entre Manchester City et Chelsea qui doit se dérouler à Istanbul à la fin du mois. Mais le Royaume-Uni se dit prêt à accueillir ce match alors que la Turquie a été placée sur liste rouge par les autorités anglaises en raison de la pandémie. Ce qui signifie qu'aucun supporter des deux clubs ne pourra se rendre dans le pays.
Partons sur les routes d'Italie maintenant avec le Giro, premier grand tour de la saison cycliste.
Avec la victoire au sprint du Belge Tim Merlier avec une arrivée dans le Piémont. Mais ce soir, on ne s'intéresse pas aux têtes d'affiche. Mais à Attila Valter, un prénom aux accents de Hongrie, le jeune coureur de 22 ans a intégré l'équipe française de la Groupama FDJ après un parcours plutôt atypique. Fanny Lechevestrier l'a rencontré.
Je m'appelle Attila, je suis un coureur professionnel.
Attila Valter commence tout juste l'apprentissage de notre langue, un monde et une culture qui lui étaient totalement inconnus il y a encore 6 mois. Il compte bien s'y mettre très vite, mais avant, il tenait absolument à boucler son master de fin d'études universitaires.
C'est sur les objets connectés, les applications au service du cyclisme, je crois que cela peut beaucoup apporter pour gagner en performance.
44 pages qui vont, sourit-il, servir aussi à son père, entraîneur en Hongrie. Mais les études, de toute façon, c'est primordial, explique-t-il, malgré les contraintes et des emplois du temps chargés.
Je voulais vraiment finir mes études, pour être honnête. Avec la crise du coronavirus, beaucoup de choses se font en ligne. Pour moi, cette année, ça a été plus simple. Donc là, je suis prêt à soutenir ma thèse. Cela me permet maintenant d'être moins stressé sur le vélo, car le sport, c'est le sport, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Surtout que devenir cycliste professionnel n'avait rien d'évident dans son pays où le développement de la pratique du vélo est encore récente.
Cela évolue vraiment vite maintenant. On voit de plus en plus de Hongrois s'intéresser au cyclisme. Cela a été un long chemin pour se faire respecter sur la route par les automobilistes, mais vraiment cela va de mieux en mieux.
Un bon résultat du seul coureur hongrois présent sur le Giro ne ferait qu'accroître cette popularité. L'an dernier, pour sa première participation, Attila avait pris une belle 27e place grâce à seulement 21 ans.
Voilà, l'étudiant cycliste Attila Walter avec Fanny Lechevestri.
Et retour sur une folle nuit de boxe aux États-Unis, Jérôme, qui a vu un Français triompher.
70 000 personnes dans un stade au Texas, sans masque, sans distanciation physique. C'était tout simplement l'événement sportif rassemblant le plus de monde aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Et en effet, un Français, Souleymane Sissoko, a décroché la ceinture intercontinentale WBA des Super Welter. Victoire au point face à l'Anglais Kieran Conway. Et malgré un coup reçu dans l'œil, écoutez la réaction du Français de 29 ans.
J'ai pas vu le coup venir. Mon œil, j'ai l'impression que j'avais perdu mon œil. Du coup, j'ai tout de suite goûté au sol. Mais bon, je me suis relevé. C'était un peu compliqué parce que je voyais pas. Mais j'avais le mental. Souleymane, vas-y, t'as beaucoup travaillé. Et là, je me parlais à moi-même. Vas-y, vas-y, vas-y. Et honnêtement, jusqu'à la fin, je voyais plus. Je suis très content. Regardez tout le monde qu'il y a. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment fou. Je vis des choses incroyables. Je suis incroyablement content. Ça montre que voilà, je suis pas très loin du très haut niveau.
Ah, c'est fou pour Sissoko, hein. 13 victoires en 13 combats, un chiffre qui visiblement lui porte bonheur.
Et on va s'intéresser maintenant à un sport particulièrement spectaculaire, un sport d'acrobatie urbaine qui transforme les villes en terrain de jeu. Ce sport, parcours, consiste à utiliser le mobilier urbain pour se déplacer. Sa popularité est grandissante grâce à des émissions comme Ninja Warrior et sur les réseaux sociaux. Les vidéos dépassent des millions de vues. En France, on compte quelques milliers de licenciés, un sport qui séduit de plus en plus, mais difficile à encadrer. Attention, sport dangereux, c'est le long format de ce soir, Marine Clette.
Avant de sauter par-dessus les rambardes ou de s'élancer contre un mur, c'est échauffement obligatoire.
On reprend les cordes, on repart pour une minute.
Trois fois par semaine, l'association Parcours Paris de Robin s'entraîne sur les quais.
Tout le monde, en étant enfant, sautait un petit peu de mur en mur, grimpait sur les arbres. Et nous, on essaye de leur réinculquer ça, mais de manière un peu plus sécuritaire. Ça fait plus de 10 ans qu'on a entre 300 et 500 adhérents chaque année. On a des femmes, on a des hommes, des enfants, des ados, on a de tout. Chaque année, on est obligé de refuser du monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire.
Plusieurs villes mettent des infrastructures à disposition, comme Lannion en Bretagne qui inaugure son parcours parc, fait de blocs de béton et de barres métalliques. Mais la discipline a aussi son côté sauvage. Le groupe Blacklist est par exemple sponsorisé par des marques pour offrir des images sensationnelles. Leur dernière vidéo totalise plus de 12 millions de vues.
This is Parkour POV in Paris. Let's go!
Ce pour quoi on va être remarqué, ça va être pour tout ce qui est sur les toits, les sauts d'immeubles, je me suspends à ceci ou cela, donc ça on en a conscience et on en joue. Et quand on est sur les toits, on fait des sauts tout petits. On reste sans arrêt dans 100% de notre zone de confort. On s'entraîne avec des petits, ils sont tous mineurs, jamais ça me viendrait à l'idée de les amener sur des toits. J'emmènerai vraiment quelqu'un en qui j'ai 100% confiance.
Mais ces vidéos sont susceptibles de donner des idées aux plus jeunes, inexpérimentés. Le directeur de la fédération, Sacha Lemaire, est conscient du danger.
C'est une vraie problématique. On ne sait pas trop, nous non plus, sur quel pied danser. D'un côté, on sait que des gens comme Blacklist maîtrisent tout à fait ce qu'ils font. D'un autre côté, diffuser des vidéos où on s'entraîne sur les toits, c'est un peu comme passer quand le feu est au rouge par rapport à un gamin qui ne sait pas encore faire la différence.
Dans son association, il mise sur la pédagogie.
Après 2-3 mois pratiques, un jeune ou un moins jeune commence à apprendre des techniques qui vont lui permettre de passer par-dessus les murs, qui vont lui permettre de grimper à travers une fenêtre qui est ouverte. Il va devenir physiquement capable d'aller dans des endroits où il n'est pas censé aller. Et donc, en même temps, on lui apprend aussi l'état d'esprit à avoir. C'est pas parce que je suis capable d'eux que j'ai le droit d'eux, si on me l'interdit.
Mais certains n'hésitent pas à braver la loi. Ces dernières semaines, 5 grimpeurs ont été interpellés alors qu'ils escaladaient l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Ils seront jugés en novembre et risquent quelques milliers d'euros d'amende.
Les ninjas de parcours urbain, Marine Clette.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec demain, lundi, un nouveau coup d'accélérateur sur la vaccination. Tous les Français âgés de 50 ans et plus pourront se faire vacciner sans condition. Et mercredi 12 mai, vaccination ouverte à tous à partir de 18 ans s'il reste des doses. La sortie de crise en débat à l'Assemblée à partir de demain également. Le gouvernement soumet aux députés son projet de sortie de l'état d'urgence avec certaines dispositions comme le pass sanitaire qui font grincer des dents. Le rendez-vous judiciaire cette semaine à noter pour mercredi avec l'heure du verdict au procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer aux assises de Chambéry. Et puis mercredi également, journée internationale des infirmiers et infirmières. Le temps fort de la semaine prochaine sur France Inter. C'est à noter pour mardi avec un hommage à Bob Marley pour les 40 ans de la mort de l'artiste. Soirée spéciale à partir de 21h. Bob Marley, 40 ans déjà, avec les reportages en Jamaïque d'Omar Waman. Omar Waman qui a rencontré Chris Blackwell, le fondateur de la maison de disques Island et qui a lancé la carrière internationale de Bob Marley.
He was a leader on tour.
C'était un leader.
What we usually see is the bus is waiting outside.
En tournée, habituellement, on voit les bus garés à l'extérieur.
And they bring in all their equipment.
Les musiciens arrivent avec tout leur matériel, ils attendent longtemps. Ils patientent et attendent la star qui, en général, arrive la dernière et monte dans le bus. Pas avec Bob. Bob était le premier à monter dans le bus, pas le dernier. Voilà le type de personne qu'il était.
Est-ce que c'est parce que Bob Marley était métis, noir et blanc, qu'il a pu plus facilement travailler avec vous ?
Oui, cela a joué, c'est sûr, parce que Bob a vécu des moments difficiles quand il était jeune, car il avait la peau claire. Ce n'est pas simple de grandir dans un ghetto quand on a la peau claire, c'est dur. Mais il a pu dépasser cela. C'était une personne extraordinaire.
Hommage à Bob Marley, mardi soir sur France Inter à partir de 21h et dans l'actualité politique à partir de la semaine prochaine, une actualité perlée jusqu'aux élections régionales, départementales des 20 et 27 juin prochains. Sandrine Houdin a voulu tester notre culture politique locale. En quoi consistent ces élections? Qui va-t-on élire? Quel mode de scrutin et pourquoi faire? Les Français semblent totalement perdus. Sandrine Houdin a tendu son micro au hasard dans les rues de Paris et vous allez être étonnés ou vous reconnaître.
Le déconfinement,
c'est pas ça.
C'est les élections régionales.
Ça y est, ça vous revient.
Oui, les députés qui vont être.
Les députés.
Oui.
Sûr.
Oui, oui, oui.
Il y a pas d'autres élections.
Non, pas du tout.
Les départementales, ça vous dit rien.
C'est en même temps, c'est pas possible ça.
Il y a combien de régions en France ?
200.
200 régions en France ?
Oui.
Il y en a 13. De quoi s'occupe une région ? De quoi s'occupe un département ?
Alors le département, il s'occupe des routes nationales. Des...
Nationales ?
Oui, des petites routes.
Ce sont des départementales, madame.
Départementales, voilà.
Donc ce n'est pas des nationales ?
Non.
Et les régions ?
Et la région, alors il s'occupe de...
des
gens qui habitent là-bas. Non, bon, j'en sais rien.
Bonjour. Est-ce que vous savez avec quoi vous avez rendez-vous les 20 et 27 ?
Départementales et régionales.
Ça a lieu tous les combien ?
Tous les 6 ans.
Tous les 6 ans, madame ?
Moi, je suis incapable de dire.
Vous connaissez la différence de compétences entre une région et un département ? Blanc.
Non, c'est parce que je réfléchis.
Réfléchissez, alors. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Pour le coup, c'est pas du tout les mêmes compétences. Par exemple, il y en a qui ont les écoles, il y en a qui ont des lycées.
Mais qui a quoi ?
Attendez.
Vous avez une idée, par exemple, du président ou de la présidente de votre région ?
Non, aucune idée.
Alors, un homme, une femme ?
Un homme.
C'est une femme.
Eh ben, loupé. C'est dramatique quand même. J'ai quand même un master de droit.
12 au lieu de 15, là, les beaux petits bouquets, dans la rose et la jacinthe.
La fleuriste.
Est-ce que vous savez avec qui vous avez rendez-vous les 20 et 27 juin ?
Avec qui je pourrais avoir rendez-vous ? 20 et 27 juin ?
Rendez-vous important dans toute la France.
Dans toute la France ? Alors là, c'est une très bonne question. Et il y a quoi les 20 et 27 ? Le 20 et 27, il y a quoi ?
Les 20 et 27 juin ?
Aucune idée, madame.
Je me dis pas que c'est les élections.
Élections de quoi ?
Bah, justement, je sais pas. Ça pourrait être quoi comme élection ?
Il y en a deux.
Les villes européennes ?
Les municipales ?
Non.
Bah, il reste plus grand chose.
Cherchez.
Patron, viens m'aider ! La dame, elle m'embête !
Ça commence par D.
Départemental.
Et ça sert à quoi ?
Pour les élections municipales, les gens connaissent leur maire. Les présidentielles, bon, on sait que c'est Jupiter. Bon, entre deux, donc, bon, mais ignorant et indifférent.
Voilà, on est sur autre chose en ce moment, je pense.
Et sur quoi ?
Les terrasses !
La tête ailleurs.
Complètement.
Et quand on voit tout ce qui se passe, ça rassure pas, quoi. Et magouille, les trucs, les copinages, c'est bon, quoi. C'est un peu triste.
Voilà, les élections régionales et départementales 20 et 27 juin prochains. C'est mon actu, Sandrine Houdin. Au générique de cette édition, Julien Dumont et Nicolas Delmas en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Lionel Thompson à la rédaction en chef assistée par Anna Péan et Cyril Valli. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo orageuse pour cette nuit et pour demain.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Avant de basculer vers l'est demain, pluie et orages vont encore émailler ce soir et une partie de la nuit. Les régions de l'ouest, des orages toujours puissants sur les départements du quart sud-ouest en vigilance orange. L'autre vigilance orange en cours concerne la Loire et la Haute-Loire où le vent va rester fort avec des pointes dépassant les 100 km à l'heure jusqu'en fin de nuit. Demain, les régions de l'ouest vont retrouver une ambiance sereine avec au plus de rares ondées dans un ciel assez bien dégagé. En revanche, du Grand Est sud-est en descendant vers les Alpes, la vallée du Rhône, le Gard, la Lozère, le Var et l'Hérault. La journée sera pluvieuse avec des pluies de forte intensité à prévoir sur les Cévennes gardoises ainsi qu'en Rhône-Alpes. Le tout l'après-midi dans les températures en baisse entre 6 et 8 degrés par rapport à aujourd'hui. Mais au lever du jour, aucun risque de gelée avec au plus bas 9 à 13 degrés. Une relative douceur matinale qui va perdurer. Autant dire que cette année, les saints de glace vont rater la marche.
Jean-Michel Golinski de Météo France.